15h56, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, le retour de Boulevard, programmation estivale ici au 102.1, mais pour vous, honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Si vous étiez déjà des auditrices et auditeurs, c'est-à-dire qu'on s'est assuré d'avoir la formule parlée qui restait en place tout l'été de semaine, le week-end, c'est le meilleur rock de la business qu'on vous propose ici au 102.1. Et ça commence dès 6h le matin avec l'émission du matin avec Yann, avec Max, avec Jeff qui sont présents cette semaine. Ensuite de ça, le point de Max, il y a Jeff Fortin avec notre collègue Pascal CV dans On en jase. Et à partir de 14h, ben, c'est le retour de Boulevard. Et cette semaine, pour vous accompagner, Véronique Bergeron, Antonin Iacarini et moi-même, Nathan Meilleur. On vous a demandé pour notre concours par texto de nous dire si vous travaillez, si vous avez travaillé à l'extérieur, on veut savoir ce que vous faites pour courir la chance de remporter ce magnifique 5 à 7 avec la cour arrière du Festivière. Fred, déménageur avec la gang de déménagement Gilles Leclerc, on a fait 3 déménagements par jour depuis 2 semaines. 3 out, 3 in par jour depuis 2 semaines, imagine.
Il doit comment avoir chaud.
C'est du stock. Je travaille en isolation dans les entretois. François, my God, tu dois capoter en ce moment. Bûchage et débroussaillage en vue d'une expansion d'érabilière. Dominique nous texte ça. Couvreur toit plat avec chauffe-torche au propane. C'est Marco. Livreur purolator dans un camion en aluminium. Sébastien, ça aussi, lâche pas. On est avec toi. Technicien en contrôle. Je pars la clim et je quitte avant que ce soit froid. Donc, Jérôme, tu sais, ça aussi, des vieilles aires climatisées qui fonctionnent pas bien, puis t'as peur le matin quand t'arrives au bureau, même si tu travailles en dedans, mais ça commence à se rafraîchir là à 4 heures. Tu sais, il te reste peut-être une demi-heure, une heure de travail à faire.
Mais imagine pour le gars qui appose. Lui, il arrive chez quelqu'un, il fait chaud, ils n'ont pas de climatisation. Il appose, là, il y a un petit air frais qui commence à rentrer, mais là, c'est le temps de s'en aller, puis s'en aller dans une autre maison chaude, poser un autre climatiseur. C'est pas cher.
N'importe quoi. Ça, c'est fou, là. Tu sais, c'est ça. Tu le fais pour les... Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je construis des machines à slush. Mais j'ai pas le droit d'en boire aujourd'hui. C'est moi qui ai fait. Je l'ai fait puis je les livre dans le... Tu sais, j'ai travaillé dehors à l'extérieur. Je suis pas charpentier menuisier. Tu sais, Maxime vient nous écrire qui était sur une toiture aujourd'hui, charpentier menuisier. Je faisais une clôture, là, mais juste d'être au gros soleil comme ça hier, tu sais, il y avait pas d'arbre où je travaillais. J'avais pas de point d'ombre non plus. Puis à un moment donné, je réfléchissais plus, là. J'étais juste comme l'ombre de moi-même d'être comme où est-ce que j'ai mis mon crayon de plomb, mon galon à mesurer, il est où. Aller reprendre les mesures 4-5 fois pour couper une planche, là, parce que c'était-tu 38 et quart ou c'est 38-3 quart? Je me souviens plus de. Tu sais, ces gars-là, filles-là qui font ça à longueur de journée, chapeau. Puis merci de choisir le 102.1 pour vous accompagner en tout temps, mais dans ces journées chaudes-là. Donc parmi vous, on fera un gagnant ou une gagnante. Il y a une nouvelle qui a attiré notre attention. C'est Véro qui nous a présenté ça un peu plus tôt aujourd'hui. La France qui songe interdire la cigarette aux personnes nées après 2009. Donc, ces gens-là, au moment où on se parle,
sont mineurs.
Ouais. Ils et elles ont 17 ans. Puis, ça serait ça, la nouvelle limite. À partir de 2009 et moins, ben ça serait interdit carrément le tabac.
L'origine de tout ça, c'est des chiffres que l'assurance maladie française a sortis sur à quel point on allait être dans le trou au courant des prochaines années. Leur déficit est prévu pour l'année 2026 à 13,8 milliards d'euros. En 2027, on sera à 15 milliards et à 17 milliards en 2029. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on propose des mesures préventives en se disant, ben si on met ça en place, ben voici la grandeur de l'économie qu'on pourrait faire. Puis d'ailleurs, la France n'est pas le premier pays à s'en aller dans cette direction-là, alors que le Royaume-Uni l'avait fait. On a interdit la vente de tabac aux personnes nées après 2008 pour tenter de créer une génération sans tabac. C'est pas le seul changement que l'assurance française voudrait amener, là, l'assurance maladie française. Il y aurait aussi de rendre obligatoire le casque à vélo et sur les engins de déplacement personnel motorisé. Lire ici les petites trottinettes électriques. Pour les plus de 12 ans, en lien avec la hausse des accidents de trajet, les accidents ont augmenté de 7,6% en 2024 et doublé depuis 2017. Fait que vous comprendrez que c'est énormément de coûts pour leur système de santé, puis je devrais même dire les systèmes de santé en général. Ils ont estimé que si on mettait en place ces nouvelles mesures-là, on pourrait économiser 3,9 milliards de dollars par année. Je répète, 3,9 milliards de dollars par année. C'est absolument... de le chiffrer, c'est gros, je sais pas. T'sais, en France, ça fume en fou.
Ben, c'est ça que j'allais dire. Ben... Parce que, bon, tu disais le Royaume-Uni s'en va dans la même direction. Ouais. Nouvelle-Zélande l'a fait. Donc, même chose.
Ils ont été le premier pays à le faire.
Premier pays à le faire. Sauf qu'en Nouvelle-Zélande, on parle de 11 % de fumeurs avant la mesure.
Ce qui n'est pas tant que ça. Hein?
Ce qui est, ben, c'est, en France, c'est 24 %
Ici, on est à 20, nous
ici,
autres,
ici, c'est vraiment, c'est entre 12 et 24 %, mais ça dépend des groupes. Il y a des groupes comme les hommes québécois. Mettons que tu regardes ouais. le Canada, mais tu prends juste les hommes québécois, c'est 20 % quand même. Donc, en Nouvelle-Zélande, ils ont réussi à baisser le taux de tabagisme à 8 % maintenant depuis qu'ils ont mis la mesure en place. Mais en France, la cigarette... Hey, moi, là... Pas des jokes, là. J'écoute des films français, là, puis tout le monde fume dans les films français. J'ai le goût de fumer.
Mais ça... même ici, au Québec, ça a été soulevé, ça, dans les derniers mois, à quel point la cigarette fait un grand retour. Empathie, qui a été excessivement populaire ouais. sur Crave, c'est Florence Lompré, qui est derrière cette série-là, qui, soit dit en passant, est extraordinaire. Et c'est vrai que dans le système de santé, c'est encore quelque chose qui est très fréquent.
Ben
dans
oui.
le personnel de santé pour avoir une pause. Puis c'était beaucoup comme ça en restauration aussi. Ceux qui ne fumaient pas n'avaient pas de pause. Bon, mais tu vois, si tu ne fumes pas, tu n'as pas de pause. Mais quand tu dis à n'importe quel collègue de travail, « Hey, là, j'ai vraiment besoin d'aller en fumer une. » Là, tout le monde te comprenait, puis là, c'était correct. Oui. Là, il n'y avait pas de problème. Tu pouvais prendre un, deux, trois minutes. Mais dans les séries, moi, ça m'étonne de voir à quel point la cigarette est vraiment de retour. Je pense qu'il y a quelque chose au cinéma puis à la télévision qui reste quand même plus sexy avec la cigarette qu'on n'aura jamais avec la vapoteuse. Ça, pourquoi on met pas la vapoteuse à l'écran? Parce que c'est pas la même affaire
ouais,
que...
Oui, parce que la vapoteuse, c'est pof-pof, tchabay, c'est fini. Tandis que la cigarette, on dirait que ça vient toujours avec un moment de réflexion, de frustration. Ouais. De
romantisme
ou l'après-sexe, ou le... Ouais. Tu sais, souvent, c'est ça. T'sais.
Mais d'un autre côté, je doute qu'une personne qui n'a jamais fumé ait soudainement le goût de fumer parce que ils l'ont vu dans une série ou dans un film.
Les jeunes, je pense que ça se peut, oui.
Je pense que les jeunes, en général, faire tout ce qui est interdit, tout ce qui n'est pas legit, on trouve ça romantique, que ce soit dans une série
ouais,
ou un film.
Ou quand il y a des gens que tu admires qui font quelque chose.
Peut-être.
Je pense qu'il y a quelque chose là. Mais quand j'ai vu que c'était la France qui voulait aller dans cette direction-là, parmi les législations les plus sévères, ouais. parce que il y en a des pays qui ont des législations très sévères. Là. Au Bhoutan, au Turkménistan, au Vatican, c'est interdit d'en acheter là, des cigarettes. Là. On s'entend, c'est vraiment plus sévère. Singapour est connu pour être extrêmement sévère. Tu n'as pas le droit de fumer nulle part. Et si tu te prends, c'est des amendes de plusieurs milliers de dollars. En France, la cigarette est partout. Les Français qui habitent au Québec aussi fument beaucoup. Moi, à peu près tous les Français que je connais fument.
Ouais.
Donc, on parle d'un changement de culture. Hey, mm-hmm. Ça va brasser probablement en France s'ils veulent passer cette législation-là. Là.
Puis, c'est le Royaume-Uni, je ne sais pas c'était quoi leur statistique. C'est l'année passée, je pense, que la réglementation a réussi à faire son bout de chemin. Mais là-bas, ça fume beaucoup encore sur les terrasses. C'est nous ici, la réglementation anti-tabac, qui d'ailleurs a célébré son anniversaire dans les dernières semaines. Et quand même, je dirais pas relativement sévère, mais ça a été un bon changement. Tu sais, de pas pouvoir fumer à moins de 5 mètres. Les terrasses, tu peux pas fumer non plus.
Pis... Souvenez-vous à quel point, tu sais, les
ça
gens...
Ça fumait partout.
Ben
là.
Oui, mais puis les gens allaient faire... Ça, c'était ridicule aussi, tu sais. De mon côté du bureau, en ce moment, c'était la section non-fumeur, puis de votre côté, c'était oui. la section fumeur. Tu sais,
n'importe quoi.
Rendu là, ça changeait pas grand-chose. Puis à quel point... Il y avait des gens, des vox pop qui avaient été faits à l'époque, puis des restaurateurs qui avaient peur de perdre de l'argent énormément. Il y a des gens qui disaient ça ne marchera plus pantoute, les bars vont fermer. Tu sais, c'était le bug de l'an 2000. Là. C'était, les gens étaient sûrs que la Terre allait arrêter de tourner. Puis finalement, en quelques mois, le virage s'est très bien fait. Là,
je me doutais que ça allait finir par entrer. Là. À quand l'interdiction sur l'alcool? Si tu commences, ça s'arrête où? Tu sais, je pense que le lien entre les problèmes de santé puis la cigarette ont tellement été faits de manière directe qu'il y a quand même très, très longtemps, là, tu sais, quand on s'est rendu compte, entre autres, qu'il y avait certains produits qui se retrouvaient à l'intérieur de ça qui amenaient une dépendance. Là, on parle de cancer de langue, de cancer de gorge, de cancer du poumon,
aussi,
de fumée secondaire.
Quand je bois une bière, moi, je bois plus en passant non plus, là, mais... Quand tu bois une bière, là, ça ne m'affecte pas, moi. Ça n'affecte pas mes enfants dans l'auto et dans la maison. Tu sais, la cigarette, il y a un aspect aussi de fumée secondaire qui n'existe pas avec, avec l'alcool. Et de toute façon, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'études qui disent que c'est pas bon pour la santé, l'alcool.
Je suis d'accord avec toi, mais c'est sûr que si ton conjoint prend une bière dans l'auto avec toi et tes enfants...
Ah, là, ça peut,
là,
être
ça
pas
peut
pareil,
quand même
ça,
t'affecter.
Ça, c'est non.
Mais ça arrive comme tout en même temps, on dirait, la France, parce qu'à cause de la période chaude et de la canicule aussi, on a songé à arrêter de vendre de l'alcool.
On
l'a fait,
oui,
on a arrêté de vendre l'alcool.
Aux barricades, hein, les
mais c'est sûr, mais là, tu sais, t'imagines-tu comment, en ce moment, tu dois entendre vraiment souvent « mais putain de merde! » Parce qu'ils doivent être frus, le plus d'alcool, plus de cigarettes.
Oui, mais là, tu peux. Le plus de cigarettes, c'est uniquement pour la génération qui est née après 2009. Fait que, tu sais, mettons, là, le Nathan parisien là, qui fume depuis qu'il y a 12 ans... Là,
ouais. Il y a une close grand-père pour toi.
Il y a une close grand-père pour lui. Par contre, le Nathan qui regrette donc bien de fumer depuis qu'il y a 12 ans... puis qu'il y a de jeunes enfants, c'est peut-être, hey, ça ferait bien qu'eux autres n'aient pas accès à ça.
Ils ne pourraient pas avoir accès du tout, c'est ça. Mais je serais curieux de voir aussi à quel âge ça commence à fumer en Europe. Parce que, tu sais, quand nous, on était jeunes, ça commençait excessivement jeune. Tu sais, les gens qui fumaient se procuraient des cigarettes de façon illégale ou en volaient à leurs parents. Là,
mais
c'était
là,
beaucoup ça.
L'éléphant dans la pièce, c'est le vapotage. Là.
Absolument.
Tu sais, la cigarette, c'est tel que tel. Les jeunes vapotent.
Puis, tu sais, ça, tu vois, les dentistes commencent à en parler aussi du fait que. On le voit chez les jeunes énormément, la situation bucco-dentaire. Il y a vraiment des impacts qui sont visibles pour l'instant, mais on n'a rien de tangible au niveau des études parce que ça fait pas assez longtemps non plus qu'on vapote au moment où on se parle.
Sur le principe du vapotage, mais l'autre enjeu, c'est la quantité de nicotine. Tu sais, mettons, la cigarette, là, il y a des limites à la quantité de cigarettes que tu vas pouvoir fumer l'une après l'autre. Je comprends qu'il y en a qui s'allument avec leur botch, mais en général, dans la vie, à un moment donné, tu vas avoir des étourdissements, tu vas avoir besoin de respirer. Fait que, tu sais, ça sera pas sans arrêt. Tandis que quand tu vapotes, t'as pas cette espèce de trop-plein-là. Fait que tu vas,
ça a l'air de rien.
Tu vas avoir beaucoup plus de nicotine qui vont être consommées. Là, on s'est même pas parlé des sachets pour arrêter de fumer, mais qui sont utilisés actuellement pour se donner un petit boost, il y a comme une espèce d'une effervescence cardiaque qui vient avec ça, là, qui est très, très, très populaire chez les gens.
Nicotine.
Exactement. Fait que, tu sais, je pense que la cigarette, oui, mais il y a plein d'autres éléments qui se sont mis en place à base. C'est noble, là. C'était pour arrêter de fumer, mais qui sont là utilisés par des jeunes qui vont peut-être en subir les conséquences, mais ça, on va le savoir dans quoi? Dans 10 ans? Dans 15 ans?
Mais bottom line, là, les mesures qui ont été mises en place de santé publique contre la cigarette puis les limitations qui ont été mises, ça a beaucoup contribué à baisser la
absolument.
Sûr,
parce que quand on
sûr.
En met, les gens disent « Ah, oh, c'est pas vrai, les gens vont contourner le marché noir, etc. » Mais non, ça fonctionne et ça fonctionne pas avec tout le monde. Il y a des gens qui arrêteront jamais de fumer. Là. Mais ça a un impact incroyable. Puis c'est vos taxes aussi. Tu sais, c'est ça le... L'autre point, c'est que quand quelqu'un fume, bien, c'est une décision individuelle, mais qui a des impacts sur notre système de santé qui est à bout de souffle aussi. On ne veut pas arrêter de soigner les gens qui fument, c'est pas ça. Mais je pense que chaque dollar qu'on investit à prévenir que quelqu'un commence à fumer, c'est un excellent investissement après pour le système de santé.
Puis parlant de sous par rapport à ça, il y a une autre nouvelle aussi aujourd'hui concernant le fameux recours collectif. D'ailleurs, vous avez jusqu'au 31 août. Prochain pour déposer votre dossier par rapport à ça. Mais c'est l'histoire de... Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais les recours sont possibles aussi pour les enfants de personnes décédées. Donc ça, c'est possible de faire ça. Sauf que là, on fait face à une histoire aujourd'hui dans le journal où il y a un père qui est décédé en 2008. Ses enfants...
Un fumeur.
Ses enfants ne se doutaient pas, évidemment, qu'en 2025, il allait avoir une indemnité possible entre 24 et 100 000 $. Pour faire une demande, la personne devait avoir reçu un diagnostic de maladie lié au tabac avant le 12 mars 2012. C'est toujours ça, la règle. Ce qui était le cas de leur père. Or... À sa mort, le monsieur, les enfants n'ont pas accepté la succession parce que le monsieur est endetté.
Ouais, fait que dans ça,
fait que c'était pas intéressant.
Je veux pas avoir les dettes, là.
On laisse faire ça. Sauf que là, eux se revirent de bord finalement aujourd'hui, ils font comme, ouais, mais tu sais, on la prendrait peut-être la succession finalement parce qu'avec le montant de 24 à 100 000, on serait capable de payer les dettes puis on toucherait quand même un montant. On s'est adressé à une notaire à ce niveau-là et ça pose un problème évidemment d'avoir refusé la succession. Par contre, c'est possible de se rétracter 10 ans après le jour du décès.
Ah ouais.
Donc, tu as jusqu'à 10 ans pour faire des démarches avec un notaire et te rétracter et finalement accepter la succession. La condition, faut pas qu'il y ait personne d'autre qui aille accepter la succession. Parce que si, par exemple, dans un groupe de personnes, il y a les deux enfants, mais il y avait des
cousins germains qui comptent.
Cousins, des neveux, des nièces, qu'eux autres ont dit, ben regarde, moi, il y a des dettes, mais je vais le payer, le 15 000 piastres de dette, puis je ramasse le chalet. Fait que je trouve ça intéressant quand même de, mettons que c'est ça l'histoire, aurait pu accepter. S'il n'y a pas personne à ce moment-là, c'est possible de le faire. Si c'est votre situation, que quelqu'un autour de vous est décédé, en fait, que un de vos parents est décédé à cause du tabac, qu'il y a eu un diagnostic avant 2012 puis que vous avez refusé la succession, c'est possible de faire des démarches, mais on sort ça dans le journal aujourd'hui en disant « faut que vous vous grouillez, par exemple, parce que vous avez jusqu'au 31 août ». Fait que le temps d'avoir, évidemment, la rencontre avec les notaires, de faire le processus, est-ce que d'ici quoi, 2 mois, vous allez avoir le temps de déposer votre dossier. Mais recours collectif, justement, qui va coûter, oui, une fortune à ces différentes compagnies de tabac-là, mais comme tu disais tantôt, Véro, combien ça nous coûte comme société, année après année. Décision qui va peut-être porter fruit, puis donner d'autres exemples. Parce que, tu sais, c'est tous des trucs logiques, je trouve.
Ouais.
Tu sais, que ça vienne en même temps que le port du casque de vélo. Là, ça, parle-moi de quelque chose que je comprends pas. En 2026, tu fais du vélo, tu mets un casque. Tu fais du ski, tu mets un casque. T'as pas l'air cool, pas de casque.
T'as pas l'air cool avec la tête cassée aussi, là.
Mais t'as pas l'air
avec
cool,
les
c'est
conséquences
ça.
D'un, ouais. D'un
avec un gros traumatisme crânien ou avec. Non, c'est ça, tu sais, en plein ça. Fait que on va suivre ça de très, très près. On fait une courte pause de retour avec votre trio. Véronique Bergeron, Anthony Niacarini, Nathan Meilleur, on vous accompagne dans Le Retour à Boulevard jusqu'à 18h. Toujours très fier d'avoir la chance de vous parler de cette entreprise-là, Telio. Telio Assurance, si vous êtes à la recherche d'un nouveau défi au moment où on se parle, allez faire un tour sur le telioassure.com pour voir les offres d'emploi. C'est une équipe professionnelle, c'est une équipe où on va vous offrir du soutien, où on va être à l'écoute de pas juste vos besoins, là, mais de vos idées aussi. Donc, si vous arrivez avec quelque chose qui est outside the box, on va vous écouter chez Telio parce que ça fait partie de notre façon de penser. On veut rendre les lettres de noblesse au monde de l'assurance parce que non, c'est pas Bob Brun travailler en assurance. Au contraire, même si vous avez la chance de faire un tour dans un des deux bureaux de chez Telio, de voir à quel point on a mis du temps pour s'assurer que les employés se sentent bien. Vous avez de la flexibilité, vous avez des beaux défis qui vous attendent. Je vous le dis, c'est un endroit incroyable où travailler, puis j'ai hâte de voir dans les prochaines années à quel point Telio va se positionner dans les meilleurs employeurs dans la grande région de Québec. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau défi, allez faire un tour dès maintenant sur le telioassure.com.
Chez McDo, ça...
16h18 à Boulevard 102-1. Je pensais que, OK, c'est de la circulation, Véro, que tu veux faire parce que t'as fait des drôles de yeux comme si j'avais pas dit la bonne heure. C'est la bonne heure. J'ai dit 16h18, c'est la bonne heure.
C'est juste ça qu'il a dit.
Maintenant, c'est 16h19. Là,
t'as dit la bonne heure.
Ah, bon.
J'étais en avance.
Dans la circulation, il y a des choses à mentionner.
Oui, entre autres, sur Capitale, en direction ouest, à l'auteur du boulevard Henri-Bourassa, la voie de droite est bloquée. Et le début de la sortie aussi vers le boulevard Henri-Bourassa, c'est partiellement travé. C'est un accident qui est sur place. Ça fait une vingtaine de minutes déjà. Et vous comprendrez que ça cause de bons problèmes dans ce secteur-là, alors qu'en direction est, c'est le bout traditionnel là, entre Henri IV et Laurentienne, où c'est bien. Je comprends pas pourquoi à chaque jour, c'est aussi jamais dans ce coin-là. Je comprends qu'on n'a pas beaucoup de manières de se déplacer est-ouest à cette hauteur-là, mais c'est au rouge terriblement foncé. En direction nord, Robert Bourassa, c'est ralenti quand même pas mal, mais c'est pas non plus la fin du monde. C'est plus complexe pour ce qui est d'aller chercher les ponts, particulièrement par Henri IV à cause du fameux entonnoir du Plessis. C'est au ralenti, mais ça finit par débourrer assez vite. Sur l'avant, c'est en direction ouest, bien sûr, la portion des travaux qui part vraiment du secteur de Lévis-Centreville et qui se poursuit comme ça allègrement, pratiquement jusqu'à la hauteur des ponts. Il nous manque quelque chose. Textez-nous 418-971-1021.
C'est des problèmes techniques qui auront marqué le retour du PEC, pour l'expliquer grossièrement ce matin, des ratés. En fait, c'est vraiment comme ça que c'est présenté dans les différents journaux. Une réouverture qui était très, très attendue, une promesse qui avait été faite du côté de Mme Fréchette de ramener le PEC pour une période de 2 ans, suite évidemment à des différentes personnes, différentes situations qui étaient sorties dans les médias, entre autres un peu partout. Il y a eu beaucoup de porte-parole, je vais le dire de cette façon-là, dans les derniers mois, par rapport à ce programme-là où on avait promis quelque chose à ces gens-là qui décidaient de venir s'installer ici. On leur a coupé l'herbe sous le pied. Il y a eu un programme temporaire, finalement, où on voulait fonctionner par région avec les différentes qualifications des gens. Donc, comme si c'était possible de dire aux gens, « Regarde, toi, tu veux venir t'installer ici au Québec, parfait, mais tu t'en vas dans tel coin. » Parce que c'est exactement là qu'on a besoin de toi. Sinon, on te dit non, tu ne viendras pas t'établir ici. Manque d'humanisme énormément dans ce dossier-là. Et là, ce matin, bien, vous comprendrez que les gens voulaient s'inscrire rapidement au PEC parce que selon votre moment d'inscription, bien, c'est dans le même ordre qu'on va traiter votre dossier.
Fait premier arrivé, premier traité.
Premier arrivé, premier traité. Ouais. Donc, il y a eu énormément d'achalandage. On n'a pas eu de sortie de la part du ministre par rapport à cet effet-là, à moins que ça ait changé, les filles, dans les dernières minutes. Là, moi, j'ai rien vu passer non plus. Mais le PEC, c'est un raté complètement là, ce matin, là, ce qui s'est passé.
Oui, en fait, c'est vraiment une séquence de décisions drôlement prises, liées à beaucoup, beaucoup de politiques. Puis, tu sais, tu disais manque d'humanité un peu dans ce dossier-là. C'est que le PEC, le programme Expérience québécoise, c'est un programme d'immigration permanente qui fonctionne effectivement premier arrivé, premier servi, de manière générale, mais qui se valait sur plusieurs années. En décembre, on a annoncé sa fermeture pour aller vers un autre programme. Là, tu as dit tantôt temporaire, mais il n'est pas temporaire, ce programme-là. C'est le PSTQ.
Le PSTQ.
Pour les travailleurs qualifiés. Et ça, c'est un programme à travers lequel c'est pas premier arrivé, premier servi. On a des critères qui valent des points. Donc, si vous parlez français, si vous avez certaines qualifications qui sont très recherchées en ce moment, si vous êtes prêt à aller en région, ça ne veut pas dire que si vous voulez être à Montréal, vous ne pourrez pas rentrer. C'est juste que ça pèse un petit peu plus lourd dans la balance quand c'est pour certaines régions. On sait qu'on a 80 % des immigrants qui vont à Montréal et à Laval. Donc, c'était un des objectifs du gouvernement. Et d'ailleurs, tous les partis le promettent toujours, hein, régionaliser l'immigration. Mm-hmm. Donc, c'était ça aussi l'objectif du PSTQ. En décembre, on annonce la fermeture du PEC. À ce moment-là, on n'a pas annoncé beaucoup de mesures de transition. On a simplement dit... Mais premièrement, je veux juste vous dire qu'à l'époque, les journalistes n'ont pas couvert ça.
Pour vrai?
OK, on me racontait, il y a eu un brefage technique qui a été fait par le ministère de l'Immigration. Il y a deux journalistes qui se sont pointés. OK, c'est très compliqué, l'immigration. Et moi, j'entends toutes sortes de gens dire toutes sortes de choses sur ces programmes-là. Honnêtement, je pense qu'il faut avoir la rigueur d'essayer de comprendre les programmes d'immigration. Et c'est quand, effectivement, les histoires se sont mises à sortir. Parce que le gouvernement ne peut pas gagner cette guerre de communication-là. C'est comme avec les médecins, quand ils se sont mis à dire qu'ils allaient tout sacrer leur camp avec les négociations pour les médecins. Là, tu as des témoignages et là, ça devient vrai. Là. La politique, là, elle devient des vraies personnes, des vraies familles.
De voir là, quelqu'un qui comble un poste qui n'était pas comblé auparavant, qui parle français, qui s'est établi, que sa famille s'est établie, qui s'est intégrée. Là, c'est effectivement, tu mets un visage à une décision, puis là, tu entends dire cette personne-là, bien là, c'est plate parce qu'ils ont décidé de faire une transition. Moi, je ne suis pas protégée là-dedans, je vais devoir quitter.
Puis tout le monde a trouvé ça complètement absurde. Et ça, c'était en parallèle d'une décision du gouvernement fédéral de couper dans l'immigration temporaire. Parce qu'en attendant de pouvoir te qualifier dans un programme d'immigration permanente, tu pouvais avoir accès à des permis de travail, ce qui te donnait du temps pour remplir les critères des programmes permanents. Mais là, le fédéral, qui pendant des années a fait rien pantoute pour contrôler rien du tout, tout à coup, là, ça s'est mis à presser et on a coupé dans les permis de travail. Donc, ces personnes-là qui avaient un permis de travail au départ et qui attendaient de remplir les critères pour entrer dans un programme d'immigration au Québec, se sont fait vraiment couper doublement l'herbe sous le pied parce qu'il n'y avait plus de temps. La fenêtre se refermait parce que tu ne peux plus travailler. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Bien, tu vas quitter. Tu ne peux pas rester ici et pas travailler, mais ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est comme une tempête parfaite qui est arrivée. Et après, il y a eu une mobilisation très, très forte des municipalités là, dans les régions, l'UMQ notamment, la FQM. Le maire de Québec a été très, très actif pour dire ça n'a pas de bon sens qu'on ferme le PEC comme ça, puis qu'on n'ait plus de permis de travail, puis que les gens qui parlent français s'en aillent. Donc,
puis à l'époque, François Legault était toujours premier ministre, puis il avait répondu au maire de Québec qui, lui, estime que c'est à peu près 13 000 personnes issues de ce programme-là qui travailleraient juste dans la région ici. De Québec. Il s'était fait répondre, non, ça va être beau pour toutes les régions. Il y a juste Montréal puis Laval qui sont problématiques. Fait que tout le monde s'est dit, ben ça va se régler à un moment donné ou à un autre.
Mais ce qui n'était pas faux, parce que c'est vrai que si les gens voulaient appliquer pour rentrer au PSTQ à Québec, c'est sûr que tu as plus de chances de rentrer que si tu fais une demande à Montréal. Mais si tu es un infirmier ou un enseignant à Montréal, tu vas rentrer là, parce que c'est des métiers qui sont prioritaires. Et aussi... c'est que si on additionnait, tu sais, chaque municipalité qui disait, ben moi, c'est 15 000, moi, c'est 10 000 immigrants, on bostait complètement nos seuils d'immigration. Ça, c'était l'autre affaire. Là. Dans les régions, souvent, on en veut de l'immigration, mais il y a quand même un seuil maximal qu'on peut atteindre. Tout ça pour dire que pendant la course à la chefferie, la chaleur a augmenté beaucoup, médiatique et politique. Et là, on a vu un Bernard Drainville promettre une clause grand-père. Moi, quand on posait la question à M. Drainville, il proposait la même affaire que Jean-François Roberge. Parce que Jean-François Roberge, qui était ministre de l'Immigration à l'époque, disait, bien, il n'y a pas de problème. Les gens qui voient la porte du PEC se fermer, appliquer dans le PSTQ, on va vous prendre. C'est un peu comme une clause grand-père. Et là, quelques minutes avant une période de questions, Christine Fréchette décide de publier qu'elle, elle va carrément rouvrir le PEC. Mm. Ce qui n'est pas la même chose que dire aux gens « Faites-vous-en pas, appliquez dans l'autre programme. » Donc là, c'était une autre paire de manches. Jean-François Robert, j'ai appris ça quelques minutes avant d'aller en période de questions puis se faire cuisiner par les oppositions. C'était pas génial. Et là, ce matin, c'est finalement la réouverture du PEC. Donc là, imaginez, là, on l'a fermé pendant des mois, les gens ont vécu dans l'insécurité et tu sais que c'est premier arrivé, premier servi. Et là, tout le monde se garoche sur la plateforme.
Il y a un goulot d'étanglement, là, c'était sûr.
Mais imaginez-vous, là, c'est votre vie. Là.
Oui. T'es installé, là.
Oui.
Et là, le site ne marche pas. Tu sais pas s'il marche pas juste pour toi.
Hey, on devient maudit quand ça arrive pour les laissez-passer du Festival d'été de Québec. C'est
ouais,
toujours
ou
bien
pour
juste
m'inscrire
les
au camp de jour.
Ouais.
Puis on parle pas de me changer de pays si je réussis pas. Donc, ça crée une panique totale. Honnêtement, ils savent depuis des mois.
Oui, tout à fait.
Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. Moi, c'est sûr que j'ai une opinion différente sur le PEC parce que je trouve qu'on a maltraité les gens, il y a un manque de prévisibilité, mais moi, je pense que c'est légitime pour un gouvernement de changer des programmes d'immigration à un moment donné.
Oui, mais faut
les
quand
règles,
même prévoir
elles
la
vont changer.
Là.
Mais il faut prévoir
la façon
une transition.
Que c'est fait, c'est plus ça l'enjeu.
Et il aurait dû s'entendre avec le fédéral avant pour dire là, on va allonger les permis de travail parce que nous, on ne veut pas perdre l'immigration francophone des gens qui sont installés ici puis trouver des mesures de mitigation. C'est ça qui a été, à mon avis, l'échec parce que le PEC. Qui admettait les gens en continu. Premièrement, quand les seuils étaient atteints, ça fermait aussi en passant. Mm. C'était ça aussi qui se passait. Et c'est premier arrivé, premier servi, peu importe nos besoins du marché du travail ou la régionalisation. Donc moi, je pense que c'était une erreur de la part de Christine Fréchette de rouvrir le PEC comme ça. Et on voit qu'est-ce que ça fait maintenant, encore une fois, comme mélodrame ce matin. Je me dis, on fait juste prolonger le malheur de tout le monde.
Puis là, on ajoute une couche aussi, parce que, tu sais, de ce que je peux lire du côté de la presse, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à accéder à la plateforme Arima, que ça s'appelle, oui. À déposer leur candidature, mais ils ne sont pas capables de joindre aucun fichier. Donc, ils ne sont pas capables de joindre leur dossier. Ils ne sont pas, donc là, des gens qui disaient en entrevue, justement, à la presse, ben là, ça dit que notre dossier est en cours de traitement, mais je ne l'ai pas déposé, le dossier. J'ai juste mis mon nom puis quelques informations.
Est-ce que c'est tombé dans le cosmos? Y a-tu quelqu'un qui va me rappeler? On est le 2 juillet. Y a-tu des gens? Y a-tu plein de monde en vacances au ministère de l'Immigration?
C'est ça. Puis, tu sais, ça, c'est le genre de plateforme aussi où est-ce que finalement, bon. Là, ça s'atténue au courant des prochaines heures. Tu retournes sur le site Internet, finalement, pour dire, bon, bien, parfait, je vais compléter mon dossier. Puis là, tu rentres tes informations, puis là, la plateforme te dit, ben, ou elle te dit, non, mais il y a déjà un dossier, nous autres, au nom d'Antonine Iaccarini.
Oh. Imagine le cauchemar.
Fait que tu peux pas rien ajouter.
Et
comme
répétons,
là, faut que tu prouves que t'es Antonine Iaccarini. Fait que là, tu sais.
Et répétons, c'est pas pour avoir une passe du FEC, là.
Non, c'est ça.
Tu sais, tu regardes tes enfants dans l'autre pièce, puis tu te dis, va-tu falloir que je redéménage avec mes enfants?
C'est pour être chez vous.
C'est capoté.
Il y a des gens qui ont pris la décision de venir ici, de choisir le Québec comme terre d'accueil, puis qui viennent de pays ou qui viennent d'endroits dans le monde où ils ne veulent pas retourner. Puis c'est pas juste à cause de la situation économique, là. Ça peut être à cause de la situation politique, géopolitique. Il y a des gens qui n'ont pas envie de retourner là où ils étaient.
C'est sûr. Par contre, je précise que c'est de l'immigration qu'on dit économique. Donc, je veux pas que les gens s'imaginent que c'est des réfugiés là, qu'on est
non.
en train de traiter comme ça. Là.
C'est sûr que t'as raison.
Non,
c'est quand même
qui...
important de tracer la ligne entre les deux. Mais il y a quand même des gens qui ont pris la décision de venir s'installer ici. En nous faisant confiance. Moi, c'est cette partie-là.
De faire confiance, de cette fête miroiter, ta carrière ici va grandir, alors que peut-être que dans leur milieu, c'est un petit peu plus difficile d'avoir dit « OK, c'est beau ». Puis quand ils déménagent tout, là. C'est le chum, la blonde, c'est les enfants, c'est le changement de système scolaire.
Oui, mais là, je veux pas avoir l'air sans cœur, OK, parce que vraiment, j'ai énormément d'empathie. Mais j'entends beaucoup ce discours-là récemment comme si... Tu sais, je veux juste vous dire, des gens qui se font refuser là, de leur immigration... Ça arrive. Là. On n'est pas capable d'accueillir tout le monde.
Oh, absolument.
Donc, des déçus, il y en a tout le temps. Moi, je trouve que ce qui n'est pas pardonnable, c'est quand c'est un manque de coordination, d'organisation et de communication.
Là-dessus, on est sur la même longueur d'onde.
On est là-dedans à 100 000 à l'heure.
On est sur la même longueur d'onde. Moi, c'est la façon dont ça a été fait. C'est le manque d'humanisme, c'est la façon dont ça a été fait, le manque de communication, le fait qu'on n'a pas réfléchi à comment on va annoncer ça, le fait qu'on a annoncé le retour du PEC comme si c'était le bon Dieu, là, puis que tout allait être réglé, puis que ça a été fait un peu comme tu l'expliquais, vraiment rapido presto, alors qu'il y avait le ministre de l'Immigration à ce moment-là qui, lui, s'en allait en point de presse, qui venait de recevoir la nouvelle, tu sais.
C'est tout croche.
Bien, ça a été fait
c'est
un peu La façon de travailler de la CAQ sur plusieurs dossiers a été souvent comme ça. Il y a ce parti-là, on ne se fera pas de cachette au niveau des coms. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne tourne pas toujours rond. Puis c'est plus cette partie-là, moi, qui me gosse. Est-ce que c'est parce que dans mon quartier, j'en ai des gens, justement, qui sont issus de l'immigration? J'ai vu des gens autour de moi changer complètement puis être en panique puis les yeux cernés parce que ce programme-là, finalement, leur disait au départ que tout était beau puis là, se sentait complètement mis de côté, même s'il y avait le PSTQ qui arrivait. Puis tu vois, il y a un texto qui est rentré tout à l'heure d'une auditrice, Nadine, qui dit, tu sais, je l'ai déposé, moi, mon dossier. On doit être sélectionné par
le ministère
de l'Immigration pour déposer une demande de sélection permanente. J'ai déposé fin mars. J'attends que la demande soit traitée. Donc, fin mars, puis on attend encore que la demande soit traitée. Fait que c'est toute cette longueur-là d'incertitude que je trouve que ça manque.
Mais là,
énormément.
Là, ils l'ont rouvert pour 2 ans. Ils vont le refermer une autre fois. Tu sais, je me dis, on n'est pas dans les solutions pérennes. On est dans la chaleur à monter.
Ouais.
Fait que là, sur le coin de la table, on a décidé ça. Je trouve ça assez déplorable. Il y a une autre affaire aussi dans tout ça, c'est que t'sais, on dit, on leur a fait miroiter. Il va falloir aussi qu'on arrête de... T'sais, nos missions de recrutement ne sont pas en adéquation avec ce qu'on essaie de faire en ce moment, parce que c'est vrai qu'il y a eu un resserrement au Québec, mais pas seulement au Québec. Il faut le dire aussi. Les années Trudeau fédéral, là, c'était des seuils d'immigration de 400-500 000, des affaires comme ça. Mark Carney n'est pas là-dessus pantoute. Là. Lui, il dit, oui, effectivement, on a trop reçu de gens. On est rendu à un point où est-ce que... on n'accueille plus bien les gens parce qu'on a une crise du logement, parce qu'on a une crise des services publics. Donc, est-ce que les missions qu'on fait à l'étranger, c'est ça qu'on... Est-ce qu'on est honnête avec les gens que la situation est en train de changer?
C'est une très bonne question, ça.
Tu sais, parce que si on fait... C'est si on laisse croire aux gens ça. Qu'avec un permis de travail temporaire, t'es garanti d'immigrer, ben, je m'excuse, mais il n'y a aucun pays dans le monde où avec un visa temporaire, t'es garanti d'immigrer.
C'est la job de communication, c'est ça. C'est de la façon dont on va le présenter, de la façon dont on va l'exposer, mais à partir de là, puis encore là, tu sais, peut-être que j'ai pas raison de réfléchir de cette façon-là, mais il faut qu'on assume dans la vie ce qu'on fait puis ce qu'on dit. Puis là, j'ai l'impression que dans ce dossier-là, c'est un peu ça qui est arrivé. Parce que, comme tu disais tantôt, puis je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus aussi, là, c'est correct à un moment donné de refermer la porte, de l'ouvrir pendant un certain temps, puis de dire là, il faut la refermer un peu parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés. Fait qu'on va s'assurer que ces gens-là seront traités de la bonne façon, qu'on va avoir assez de bandes passantes quand on leur dit qu'on rouvre le programme pour que ces gens-là puissent s'inscrire au lieu d'ajouter une couche de stress supplémentaire sur ce qu'ils vivent déjà depuis certains mois. Mais c'est le bon vieux, la bonne vieille phrase de « faut que les bottines suivent les babines ». Tu peux pas aller en mission à l'extérieur puis faire miroiter le Québec aux gens comme étant une terre d'accueil exceptionnelle si on n'est pas capable de le faire comme il faut.
Être honnête dans ce qu'on a à offrir.
Puis là, les gens qui vivent cette situation-là sont déjà ici parce qu'on leur a déjà fait miroiter ça.
Mais il y a une autre affaire, par exemple. Il faut être réaliste. Des fois, j'entends, on change les règles du jeu pendant que la game est commencée. La game est tout le temps en cours. Il n'y a pas un moment où, ça y est, on a traité tous les dossiers d'immigration, nous pouvons changer les règles du jeu. Fait que c'est pour ça que les mesures de transition sont vraiment essentielles. Autre élément, je trouve que c'est quand même un peu dommage de ne pas voir le ministre de l'Immigration répondre aux questions aujourd'hui, être rassurant. On parle de familles qui sont dans l'incertitude. Je trouve que la communication est très minimale. Tantôt, on disait un peu à la blague que M. Bonnardel n'était pas venu nous voir, notamment parce qu'il n'a pas le goût de répondre à des questions sur s'il se présente ou pas. Ce qui me permet de faire le pont vers mon prochain sujet, qui était les gens qui annoncent qu'ils s'en vont encore aujourd'hui. Christine Fréchette annonçait sa candidature dans Trois-Rivières. Bien, il y a une députée caquiste qui s'est dit « Quelle excellente journée pour annoncer que je sac mon camp!
»
Alors que la CAQ avait demandé à ses élus de dire « Est-ce que vous vous présentez ou non? » avant la fin de la session.
C'est quoi, c'est le 31 mai, je crois, la date, au moins pour aviser le parti.
Quelques jours avant
là.
La fin de la session, il fallait qu'il ait dit « je me présente ou pas ». Céline Etayane, qui est députée à Laval, elle s'est dit « moi, je vais gâcher une journée de Christine Fréchette, je vais aller dire que je m'en vais, un autre départ à la CAQ, là, question là, qu'on ait l'air encore, que tout le monde est en sauf qui peut ».
Alors que ça fait genre depuis lundi qu'on sait que c'est jeudi que ça va être annoncé.
Elle pouvait pas attendre, ou alors le faire il y a 3 semaines, mais bref. François Bonnardel fait partie, qui est ministre de l'Immigration en ce moment, fait partie des élus de la CAQ qui n'ont pas encore clairement dit s'ils restaient ou pas.
Alors que lui avait fait un retour au Conseil des ministres par la grande porte, après avoir été dégommé par François Legault. C'est l'homme qui est parti, en fait, qui était à l'ADQ, qui a transféré à la CAQ, tu sais. Fait qu'il y avait une figure en le ramenant au Conseil des ministres. Mais tu sais, si tu le ramènes au Conseil des ministres, puis c'est pour te faire chier les mains avant la prochaine élection,
il est mieux de se présenter. Je vais vous dire, il est mieux de se présenter. Mais il y a d'autres noms qui continuent d'être un peu dans le flou. Martine Biron, c'est pas trop. On n'a pas eu d'annonce très claire si elle se représentait. Ministre qui est dans la région du Chaudière-Appalaches. Simon-Jolin Barrette, pas clair non plus. Donc, je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais ça aide pas du tout leur chef, cette incertitude-là. Puis ce qui aiderait aussi, je pense, Christine Fréchette, ce serait s'il y avait certains ministres ou députés qui ont annoncé qu'ils quittaient, mais qui changent d'idée.
Genre de Sonia Lebel, par exemple.
Ça serait
l'éducation.
En tout cas, moi, si j'étais Christine Fréchette, je voudrais ça. C'est ça. Dans le fond, on va surveiller si Mme Fréchette est capable de retenir certains ministres. Mais ça m'a bien fait rire cette députée de Laval que peut-être personne à la maison ne connaissait vraiment, qui a décidé de gâcher la chose.
Ça, le gars, ouais, c'est ça. Ouais, elle n'a pas lu le mémo non plus. Oui,
il n'a pas pensé. Là,
en même temps, c'est ça. T'sais. Mais en même temps, regarde, on le dit depuis le début de l'émission, c'est mêlant le maudit congé du mercredi. Elle, peut-être qu'elle pense qu'on est lundi, là. Elle a oublié qu'on était jeudi aussi.
J'aime ça que tu vois toujours le bon chez les gens.
J'essaye le plus possible. Mais tu sais, c'est sûr que voir le bon côté pour M. Bonnardel, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui. Je trouve que c'est pas normal que le ministre de l'Immigration ne se soit pas prononcé. Il est quand même rendu 16h37. Ça a commencé à 8h ce matin. Bref, ça va être à suivre. On reste quand même en politique parce qu'il y a un sondage qui a été commandé par le Parti conservateur du Québec, donc le parti de M. Éric Duhaime. Les chiffres sont favorables pour lui, c'est ce que je comprends.
Oui, c'est un sondage Palace. Puis pourquoi on a commandé ce sondage-là de la part du parti politique? C'est qu'on dit qu'il y avait eu des sondages qui disaient tout est son contraire par rapport au Parti conservateur dans la grande région de Québec. Puis là, on va faire attention, là. On dit que c'est favorable dans la grande région de Québec, mais si on sépare le volet RMR du volet Chaudière-Appalaches, les chiffres ne sont pas les mêmes pour le Parti conservateur. Fait que oui, effectivement, ils arrivent en tête pour tout ce qui est inclus, avec environ 27 % des intentions de vote, suivi du Parti québécois avec 21 % Ensuite de ça, on a la Coalition Avenir Québec et le Parti libéral qui sont au coude à coude avec 14 % Mais ce qu'il ne faut pas négliger là-dedans, c'est le côté indécis qui est somme toute assez élevé. 20 % d'indécis parmi les gens qui ont été sondés. Là, c'est un échantillon de 600 quelques électeurs qui ont répondu à la question. Puis là, l'autre affaire, c'est que si on sort, dans le fond, Québec puis Chaudière-Appalaches, on n'a pas la même affaire. Par exemple, le PQ va être en avance dans ce qui est de Québec, alors que le Parti conservateur, lui, va être en avance du côté de Chaudière-Appalaches. Fait que c'est 605 personnes qui ont répondu à ce sondage-là du 17 au 22 juin. Fait que ce qu'on a à comprendre, beaucoup d'indécis. La Rive-Sud qui semble un peu plus favorable au Parti conservateur d'Éric Duhaime versus le côté de Québec, mais encore là, si on regarde la marge d'erreur, tous les partis sont à peu près à la même place. Ça peut partir d'un bord ou de l'autre. T'as l'air de trouver ça drôle, toi?
Moi, ce qui me fait rire, en fait, c'est que tu peux sortir le gars de la radio, mais tu peux pas sortir la radio du gars. Tu sais, les sondages numéristes, quand ils sortent...
tout le monde gagne!
Tout le monde est numéro un. C'est souvent ce qu'on se fait dire, tu sais. Puis là, je trouve ça drôle qu'on le joue un peu de cette façon-là. Ça n'empêche pas le fait qu'il y a quand même une avance dans certaines strates, mais... Je trouve que ça fait très, très sondage radio, puis on ressort le mieux pour nous. Là.
Dans le texte de la presse canadienne, on nous dit que si, mettons, là, on inclut les indécis, là, dans Chaudière-Appalaches, le Parti conservateur mène à 34 % loin devant tous les autres. Par contre, dans la capitale nationale, le Parti conservateur arrive deuxième, alors que c'est le PQ qui est en tête. Mais encore là, c'est 23 et 25 %
Ouais.
Là,
mais le message, là, c'est que le PCQ est fort dans la région, il est compétitif.
Oui, tout à fait.
Il y a plusieurs... Quand on regarde aussi circonscription par circonscription, il y a des choses qui vont être un petit peu imprévisibles. Ça dépend vraiment comté par comté. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est Québec solidaire à 4 %
Oui, mais ça, tu sais, ils ont un député à Québec qui retient favorablement l'attention. je pense que Solzanetti est bien perçu en général.
Ben, Étienne Grandmont aussi. C'est vraiment... Ouais, en fait, on s'en va du côté de QS vers une perte de circonscription en dehors de Montréal. C'est ça qui est en train de se passer.
Est-ce que des résultats de sondage, ça peut influencer un vote?
OK. Ça,
parce qu'il y a 20% d'indécis, fait que c'est une bonne question, parce que c'est beaucoup.
Pourquoi
là.
Vous pensez qu'il sort ça aujourd'hui? Parce que Éric Duhaime, son défi, les gens aiment ça voter quand même pour quelqu'un qui risque d'être au gouvernement. C'est dur de convaincre quelqu'un de voter. Donne-moi quelques députés. Les gens aiment ça être du bord du pouvoir. Donc, à un moment donné aussi, s'ils ont peur d'une option, ils veulent pas, par exemple, moi, mettons, là, je veux pas là, que le PQ gagne. J'ai tellement peur du référendum là, que je veux trouver c'est qui. Là. Est-ce que je dois voter libéral? Est-ce que je dois voter pour la CAQ? Ou est-ce que je dois voter pour Éric Duhaime?
Ton vote devient stratégique. Là.
Et voilà. Donc, Éric Duhaime, il veut dire aux gens, attendez, là, je suis une option intéressante. Parce que quand ça se met à être trop bas, un parti politique, il y a des gens qui vont décrocher juste parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas assez de chance. Les gens ne votent pas juste pour leurs valeurs. Ils votent aussi de manière stratégique pour bloquer d'autres partis ou d'autres options politiques qu'ils ne veulent pas. Puis, c'est sans surprise qu'Éric Duhaime est quand même assez fort à Québec. Il n'y a rien qui nous jette en bas de notre chaise, mais ça vient aussi mettre une lumière sur pourquoi il pousse autant pour avoir un débat à Québec.
Ouais.
Il veut vraiment que ce soit sa porte d'entrée. Ouais, il veut que la région soit sa porte d'entrée vers l'Assemblée nationale parce qu'il ne peut pas rater son coup là, cet automne.
C'est des chiffres peut-être qui vous parleront. Peut-être que ça vous... Tu sais, moi, je pense honnêtement que l'exercice, entre autres, de la boussole électorale... Je vais... Tu sais, quand l'aiguille a de la misère à trouver le nord là, sur une boussole, là, moi, je me sens exactement comme ça en ce moment. Tu sais, ça brasse un peu de tout bord, de tout côté.
Je suis un cœur à prendre et c'est un vote encore plus.
Ma décision n'est pas prise par rapport à ça. Je comprends que c'est une méthode de vote aussi qui est différente, mais tu sais, c'est un truc que j'aime bien du côté municipal de pouvoir voter pour le chef et le député à part aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. C'est drôle ce que tu disais parce que, tu sais, on veut... en quelque sorte, gagner nos élections. Puis je me souviens, quand tu as dit ça, ça me rappelle des souvenirs de mes grands-parents, tu sais, qui demandaient au lendemain d'un vote, puis t'as-tu gagné tes élections?
Exact.
On posait cette question-là.
Ils veulent pas être des losers!
Tu veux pas, c'est
ça. Mais t'es jamais un perdant quand tu votes pour tes valeurs. Moi, je trouve que c'est une excellente idée d'envoyer les gens sur la boussole puis de lire les plateformes.
Ben oui.
Au-delà de ce que vous entendez en général dans les médias, les lignes de presse.
Aller à la source.
Ouais.
Votre entourage aussi, les
c'est
médias
ça.
Sociaux.
Les gens ne le font pas, on le fait peu, mais en même temps, j'ai l'impression que la politique intéresse davantage les gens dans les dernières années. Est-ce que c'est un mauvais coup de sonde? Moi, autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui se passe. Est-ce que c'est la porte d'entrée? Est-ce que c'est peut-être le municipal? Parce que quand M. Labeaume était en poste, ben, on savait que c'était lui qui gérait, puis ça allait être ça de toute façon. Puis, fait qu'est-ce que c'est en train de changer? Mais bref, vous avez encore du temps pour vous faire une tête par rapport à ça, mais Éric Duhaime paraît bien dans ce sondage-là qui est présenté aujourd'hui. C'était un petit tour de ce qui se passe au niveau politique. On fait une pause et on revient de l'autre côté dans quelques instants. Les voix que vous entendez, bien, c'est celles de Véronique Bergeron, Antonine Iaccarini, Nathan Meilleur pour vous accompagner jusqu'à 18h.
Le retour.
Sur la plage, la saison qui est bel et bien débutée du côté de la baie de Beauport, vous pourrez profiter d'activités sportives, nautiques, familiales. C'est une possibilité de profiter de l'été à plein, là. Bord en bord, avec une programmation bien ficelée, les mardis soirs en yoga, les jeudis dance country, entre autres les apéros avec des chansonniers pour vous accompagner l'après-midi. Ça, c'est une des activités qu'on vous propose du côté du port de Québec. Faites un arrêt à la cale aussi. On dit souvent que les plus beaux souvenirs naissent dans les moments les plus simples. Terrasse au bord de l'eau, au moment où le soleil se couche. Si vous avez une victoire à célébrer ou simplement juste un 5 à 7 entre amis, entre collègues de travail, ça vaut vraiment le détour. Les matchs de la Coupe du Monde qui y sont présentés d'ailleurs pendant le tournoi. Vous avez l'Oasis qui est au cœur de la Marina aussi, qui va s'animer chaque jour avec une programmation différente. Il y a les soirées apéro, les bricoles les lundis. Il y a les mardis quiz entre amis. Les mercredis ambiance country, entre autres. Donc, le port de Québec vous propose plein de magnifiques activités à mettre sur votre to-do list. Tout ça accessible assez facilement, même via la piste cyclable, si vous voulez. Donc, pensez mettre une de ces magnifiques activités proposées par le port de Québec à votre agenda. Une autre bonne nouvelle du côté du Canadien de Montréal. Je pense que tout le monde va être content de cette nouvelle-là, hein, avec la fin de saison incroyable qu'il nous a donnée. C'est Jakub Dobesch qui a signé une prolongation de contrat. C'est 3 ans avec le Canadien, en moyenne 5,35 millions de dollars par saison, qui va commencer donc 2027-2028. pour se terminer en 2030. 29 victoires, 10 défaites, 4 victoires en prolongation ou en tir de barrage la saison dernière. Dernière avec une moyenne de buts accordés de 2,78, un taux d'efficacité de 0.901. Il a été vraiment solide.
Il a été stellaire.
Il a été vraiment, vraiment solide. Il a terminé au quatrième rang du scrutin pour la recrue de l'année qui a couronné Matthew Sheffer des Islanders de New York finalement. Et on peut lire aussi qu'il a fini 9e à ce chapitre parmi tous les portiers de la Ligue nationale de hockey.
Puis souviens-toi avec combien de pression il est entré, parce que lui, ses premiers matchs, il les avait joués pendant la période des fêtes de la saison 2024-2025.
Oui.
Puis il avait été tellement, mais tellement hot. Puis là, à un moment donné, bon, on n'a plus besoin de lui. Il revient. Fait que, tu sais, on s'attendait encore à ce que ce soit parfait. Ça n'a pas été le cas. T'sais, il a eu ses dents. Puis on s'est tellement fait parler du moment où il a trouvé ça triste, il a pleuré. Puis j'ai pas aimé la réaction de bien des gens par rapport à ça. Puis il l'a totalement assumé. Fait que je pense que c'est une belle nouvelle. Puis ça fait partie du fameux noyau dont Max Larouche nous parlait un petit peu plus trop aujourd'hui, là, qui a le goût de rester là puis qui a le goût de gagner une coupe ensemble.
Bien, c'est ça. C'est que je pense que malheureusement, les gars en avant se sentaient beaucoup plus en confiance avec Dobesch oui. devant la cage qu'avec Montembeau. Évidemment, c'est plate. On trouve ça plate, tout le monde, je pense, au Québec pour Montembeau, parce que ça s'enlignait donc bien pour être son année, puis ça allait être extraordinaire. Puis... Mais il a signé pour une poutine chez McDo. Puis ça, ma théorie du mec joueur, pour ceux qui la connaissent
c'est
pas.
Comme Madden, hein?
Chaque fois que le mec joueur signe pour un burger ou une poutine, les statistiques commencent à le montrer, là. Il y en a des joueurs pour qui ça a bien été, là, mais la plupart, ça n'a pas bien été. Fait que là, je vais demander une bonne fois pour toutes. Puis McDo, je vous aime. Vous le savez que je vous aime, là. Mais lâchez le Canadien. Prenez Youpi. Faites d'autres
ou
choses.
Metal.
Même Bergevin, là, ça avait été tough quand il y avait eu le Big
c'est
Mark.
C'est vrai, c'est arrivé,
c'était
ça.
C'était le Big Mark, ça s'appelait. Ça avait mal été,
faites
ça.
Faites plus ça. Hey, on nous signale deux accidents sur Henri IV à la sortie 136 pour prendre le boulevard Laurier, donc en direction sud. C'est un camion lourd, accident avec un véhicule léger dans la voie de droite. Il y a aussi un accident dans la côte de l'aéroport. Il y aurait plusieurs policiers et au moins une ambulance qui serait sur place. Donc, ça s'ajoute à un jeudi après-midi où c'est plutôt lourd dans la circulation.
Là, on avait un sujet qui était prévu pour vous, mais on l'a tassé, on l'a mis
absolument
de côté parce que Véro me disait qu'elle était en communication avec notre collègue Audrey Pinchot,
ouais,
qui est au bout du fil.
Qui est surtout en vacances.
Au moment où on se parle, ben oui, c'est vrai. Salut Audrey!
Salut!
Bonnes vacances!
Merci, je suis contente de vous jaser.
Bien, nous autres aussi, on est vraiment contents de te parler parce que on s'est dit que ça valait la peine de te parler un peu parce que...
Tu nous as levé un flag.
Oui, vraiment intéressant.
Demain, c'est la présence d'engines de poitrine du côté de Festivois à Trois-Rivières. On a vu ce qui s'est passé du côté de Montréal avec le Festival de jazz. C'est un concert gratuit, il y a eu des dizaines de milliers de personnes. Ça a été l'enfer. Et toi, tu as décidé que tu voulais aller voir engines de poitrine?
Ben, j'ai pas eu la chance encore. Puis tu sais, je veux dire, Denis nous a tellement agacés avec ça dans les derniers mois, je devrais
harceler.
Dire en dernière année.
Harceler, le terme que tu cherches.
Ah, ben, j'essayais de rester polie. mais oui, harceler. Puis je me suis dit, ben, tant qu'à les avoir pas loin, parce qu'on n'a pas réussi à les avoir à Québec, ben, pourquoi pas aller faire un tour. Moi, je vais toujours au Festivois. C'est vraiment un festival que je trouve le fun. Puis ils ont quand même un des très, très beaux spots sur le bord du fleuve.
Ben
là.
Oui.
Fait que de toute manière, moi, demain soir, je m'en allais voir Papa Roach, qui est sur la programmation. Puis, ce qui se passe, c'est que à 23h30, Engine de poitrine se produit sur une toute petite scène que le Festivois ouvre derrière, si on veut, le site principal. Je sais même pas comment ils vont faire, honnêtement, pour rentrer le monde, parce que la semaine passée, j'étais allée voir la soirée électro, puis c'est la grand-messe qu'il y avait en fin de soirée à 23h30, qui est le groupe hommage aux Cowboys, puis c'était plein. Puis là, depuis tantôt, ce qui se passe, c'est que on a décidé, mon amoureux, moi et Max Larouche, parce qu'on y va tous les trois ensemble, de se dire, hey, étant donné que la soirée va terminer tard, on va se prendre un hôtel ou une auberge ou quelque chose, tu sais, au centre-ville, puis on va dormir là. Mais je suis pas toute seule à avoir eu cette idée-là. Puis là, je me rends compte que, OK, il y a vraiment un phénomène. Parce qu'il y a des gens de partout qui, demain, vont venir voir à 23h30 Engine de poitrine au Festivois. C'est capoté parce que tous les hôtels que j'ai appelés, tous les gîtes, toutes les auberges qu'il y a proches et loin, c'est-à-dire une demi-heure de marche et plus du centre-ville, sont complètement pleins. Puis la première chose qu'on me dit quand je suis au téléphone, c'est ben, « j'imagine que vous allez voir Angine de poitrine demain soir, vous autres aussi. Hein? »
Ben voyons.
Ben oui, mais pourquoi, tu sais? Ben parce que là, madame, on est complètement plein. Là, il y a du monde de partout, on n'a plus de place. Écoute, Véro, j'ai réussi à avoir un gîte qui a accepté de nous prendre parce qu'il y a eu une cancellation il y a 2 heures. Puis j'ai passé un de ces questionnaires pour être capable d'avoir la réservation. Là, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Puis vous, est-ce que vous faites le party? Parce que nous autres, si on n'aime pas ça le party, là, puis on a entendu dire que le monde qui allait voir Angine de poitrine, il aimait ça le party.
La musique du diable. C'est des jeunes qui écoutent la musique du diable, Angine de poitrine.
Je te dis, il a fallu que je justifie l'âge de Max Larouche puis que je jure de le garder tranquille.
Écoute, voyons. C'est tellement fou. Puis tu sais, ce que vous vivez, c'est vraiment pas rien, là, parce qu'on pouvait le lire un peu plus tôt. Là, Angine de poitrine se produit ce soir au festival La Noce de Chicoutimi. Puis quand le buzz est parti, ces contrats-là étaient déjà signé pour les contrats. Fait qu'ils font la première partie de Lou-Adrienne Cassidy.
On s'attend-tu ce que soir, je comprends qu'elle pogne, mais actuellement, c'est un peu l'inverse qui aurait dû arriver.
C'est, du côté d'Ottawa aussi, on est en train de revoir comment on va faire. Du côté de.
Eux autres, ils changent. Ils étaient censés faire la première partie de Death from Above 1979 et finalement.
C'est Ella Langley.
Sur la scène principale en ouverture de Ella Langley pour Sheryl Crow.
C'est Ella Langley, Sheryl Crow, mais c'est Angine. Le clash
Quel
va
weird
être.
Weird mix.
Ben, ça va être. Mais en même temps, ils n'ont pas le choix parce que sinon, il va y avoir des débordements. Ben, c'est ça. Ils vont avoir des débordements de sites, tu sais.
Même à Trois-Rivières, j'asais avec une des filles qui est sur la programmation vendredi passé, puis elle me disait, tu sais, on les a reçus l'année passée, puis elle dit, on s'est dit comme, hey, ils sont le fun, faut leur faire une place encore cette année, tu sais. Mais elle dit, c'était comme avant que ça explose. Elle dit, tu penses-tu vraiment qu'on les aurait mis à 23h30 sur le bord du fleuve, cachés en dessous d'un bloc de béton?
Mais non!
Si on avait su que ça pognait autant, tu sais.
Mais tu sais, Audrey, on va pouvoir les voir aussi du côté de Festivant. Ils sont là pour la soirée de clôture le dimanche 2 août. Mais ils jouent en première partie des Vulgaires Machins puis des Offspring.
Ça,
en fait,
ça pas rapport.
Non, moi, je suis très contente. C'est un show pour les gens de mon âge, là. On va être contents, on va pouvoir aller se coucher de bonne heure. Mais c'est vrai que ça n'a pas rapport, là.
Mais c'est le fun, par exemple, parce que c'est une des soirées où si vous avez pas le goût de veiller trop tard, justement, vous allez pouvoir les voir plus tôt que tard. Moi, tu vois, je pense à mes cheveux et mon dos en vue de demain soir, 23h30, puis ça me tente moyen, mais j'ai l'impression que c'est incontournable.
Et que j'ai peur d'avoir ton âge, Audrey.
Ah, c'est pas facile, Véro, je te dis, là.
C'est pas facile. Même en vacances, puis être en vacances en plus. Tu vois, je lisais aussi du côté de Rimouski, là, la dame du festival qui a été interrogée par le journal un peu plus tôt, là, dit, tu sais, j'ai des gens du Nouveau-Brunswick, j'ai des gens des États-Unis, il y a des gens de l'Australie.
C'est fou, hein?
Se sont procurés des passes pour débarquer à Rimouski parce que le phénomène est juste impossible à quantifier. Puis eux, la scène pour les accueillir est beaucoup trop petite. Donc, ils ont monté une cellule d'urgence au moment où on se parle pour essayer de réfléchir le site différemment, changer la scène de place, changer des clôtures de place pour éviter qu'il y ait des débordements comme il y a eu du côté de Montréal, finalement.
Je suis en train de me dire, je suis en train d'écrire aux gars tantôt, puis je disais entre autres à Max, d'après moi, on n'aura pas le choix de quitter le spectacle de Papa Roach pas mal avant la fin.
Absolument.
Pour être capable d'avoir accès au spectacle d'Angine de poitrine. On n'aura pas le choix, là.
C'est-tu vrai que les gars de Papa Roach vont quitter leur propre show plus de bonheur pour pouvoir voir Angine de poitrine?
Imagine.
Mais ça, je pense que c'est vrai.
Bon, ça.
C'est vraiment quelque chose qui se peut, ça, cet été. Les différents festivals où vous allez aller, si vous êtes capable d'aller voir un show d'Angine de poitrine, d'après moi, il y a plusieurs membres des autres bands, autres formations qui vont être curieux d'aller voir aussi la formation. Tu sais, des setups comme le Festival d'été de Québec, c'est pas ça partout. Tu sais, des setups où est-ce que les artistes ont des zones réservées pour être capables de regarder les autres shows sans qu'on les voit ou presque. Du côté des fêtes TELUS à Rimouski, puis même du côté du Festivois, d'après moi, il y a plus de chances que vous soyez peut-être côte à côte avec le chanteur, finalement, de Papa Roach demain. Là.
C'est sûr. Ben oui, parce que la place où ils font jouer les artistes comme ça en fin de soirée, là, hey, c'est pas gros, là. On rentre vraiment pas tant que ça, puis c'est vraiment en dessous d'un genre de...
Un chapiteau?
Ben non, même pas. C'est vraiment, il y a comme, je vais l'expliquer comme ça, ça va être plus facile là, radiophoniquement parlant là. Mais c'est comme si c'était en dessous d'un genre de pont. Ils ont vraiment un affaire de briques au-dessus de la tête, là, de béton, excuse-moi là. Puis ils ont comme créé un spot le fun. C'est pas une scène de base cela là. Fait qu'ils ont vraiment créé un spot un peu funky. Mais tu sais, il y a pas beaucoup de personnes qui sont capables d'entrer. Et d'après moi, pour vrai là, si on se squeeze là, on peut peut-être rentrer. Hey, 1000, puis je sais même pas si j'exagère.